tranches de vie, une émission proposée par JF.
Aujourd'hui, dans les studios de RLP, un jeune homme qui va nous parler d'une expérience peu commune, qui est pratiquée, qui est partagée par beaucoup de gens, mais quand même qui gagne à être connue. Et il s'agit du pèlerinage à la Mecque. Toufik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, qui était peut-être un peu délicate. Invitation à nous parler du pèlerinage que tu viens d'effectuer il n'y a pas très longtemps à la Mecque. Tu vas nous dire quelle sorte de pèlerinage c'était. Tu as fait ce voyage en compagnie d'un ami.
De deux amis.
De deux amis. Mmh. Et donc tu vas expliquer aux auditeurs un petit peu ce que tu as vu. Et surtout ce que tu as vu et surtout ce que tu as pu ressentir en faisant ce pèlerinage. Alors, je précise pour les auditeurs un petit rappel en quelques chiffres. Il y a, je leur dis d'abord que cette émission n'est pas une émission religieuse, hein, puisque c'est une émission de témoignage sur une expérience vécue.
Tout à fait.
Mais je rappelle quand même aux auditeurs que la communauté musulmane est forte de 1,6 milliard d'habitants sur Terre.
Exactement.
Et que le pèlerinage, les pèlerinages, on va dire, de la Mecque, accueillent chaque année à peu près 2 millions, entre 2 millions et 3 millions de fidèles. J'ajouterai, puisqu'on va parler beaucoup de la Mecque, que la Mecque est actuellement une ville qui a à peu près 1,6 million habitants, et que cette population est plus que doublée, presque triplée, par l'apport des pèlerins. Donc, Toufik, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui t'a amené en tant que jeune homme, curieux, et en tant que fidèle, à effectuer ce pèlerinage. Et quelle est la forme de pèlerinage que tu as choisie avec tes amis ?
Alors, bon, déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation. C'est avec plaisir que je viens aujourd'hui pour en parler. Alors, effectivement, on considère ça, nous, clairement, comme le voyage de toute une vie. C'est un objectif qu'on a depuis notre tout jeune âge. Déjà, ne serait-ce que parce que nos parents, nos grands-parents, on fait ce pèlerinage bien avant nous, donc on a baigné un petit peu là-dedans. Et c'est presque un fantasme pour nous. Hein. On en parle très régulièrement, c'est vraiment un pilier, hein, c'est le cas de le dire, dans nos vies respectives.
C'est considéré, le grand pèlerinage est considéré comme un des cinq piliers de l'islam.
C'est ça. Et pour être plus précis, donc avec mes deux amis, Karim et Momo, qui se reconnaîtront, c'est le petit pèlerinage que nous avons, que nous avons fait, et non pas le grand. Donc on pourra peut-être en parler pour essayer de comprendre un petit peu la différence entre les deux.
Tu peux dès maintenant, au moins par leur durée,
exactement.
Les différencier.
Ne serait-ce que par leur durée. Ouais. Donc effectivement, le grand pèlerinage, en général, on y est pour un mois complet. D'accord. Donc il y a effectivement plusieurs rites qui sont établis là-bas. Et le petit pèlerinage, comme son nom l'indique, c'est très très court. Nous, pour être précis, on y est resté à peu près 10 jours. Et en fait, on a fait le petit pèlerinage. Ça peut se faire en 3 heures, pour être précis.
Ouais. Ah bon.
Oui, vraiment.
Donc,
c'est très rapide.
Il y a des pèlerinages éclairs. Alors.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment très rapide.
Mais alors, est-ce que tu peux différencier ces pèlerinages par leur nom, de manière à ce que...
Oui, bien sûr. Alors, le grand pèlerinage, on l'appelle ça le Hajj, en arabe. D'accord. Et le petit, c'est l'Umra.
Donc, c'est l'Umra que vous avez fait.
Que nous avons fait, exactement. Et en fait, si on devait faire un petit résumé, il y a à peu près 3 rites à respecter. Et comme je le disais, qui se fait en à peu près 3 heures. Alors, tout dépend de l'état physique de la personne, évidemment, puisqu'on a par exemple les 7 tours, vous savez, qu'on est censé faire autour de la Kaaba, de la maison sacrée. Il y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps que nous pour le faire, voilà, ce genre de choses. Et donc nous, on y est resté une dizaine de jours. Pourquoi ? Parce qu'on voulait aussi partager notre temps entre Médine, qui est la deuxième ville principale.
Ah, vous êtes allé à Médine aussi.
Tout à fait, oui, c'est ça. On a partagé un petit peu notre temps en deux.
On rappelle, hein, pour les auditeurs, que ce sont les deux villes saintes de l'islam, Médine et la Mecque.
Exactement. Donc on a fait, on va dire, des visites, hein, on appelle ça des visites, mais toujours en lien avec l'islam et avec l'histoire de l'islam à Médine. Et on a terminé effectivement par nos rites du côté de la Mecque. Voilà, si je devais faire le résumé,
ces deux villes de la partie orientale de l'Arabie Saoudite.
Exactement.
Qui sont distantes à peu près de de quelques dizaines de kilomètres.
Un peu plus quand même. Un peu plus, oui. On a mis plusieurs heures pour on s'y est rendu par taxi.
Ah oui.
Et on a quand même
plusieurs
mis pas mal
de taxi.
Plusieurs heures de taxi pour s'y rendre.
Par,
oui, tout à fait.
Par des routes très correctes.
Oui, il y a des autoroutes, il y a des routes
trouve en Arabie Saoudite. Oui, exactement. Hein, il faut imaginer l'Arabie Saoudite comme un pays quand même dont les villes sont souvent très modernes et reliées par un très bon réseau.
Exactement.
Réseau routier. Rappelons aussi que ces deux villes sont les villes où est née cette troisième religion révélée,
exactement,
dite religion du livre, puisqu'elles ont toutes les trois leur source, une source commune, et puis ensuite elles ont divergé. Et puis que la révélation qui a été faite, puisqu'on parle de religion révélée, a été faite au prophète Mahomet au 7e siècle d'après Jésus-Christ.
Exactement.
C'est à partir de là que s'est produite à la fois la diffusion de cette religion et puis l'expansion de l'islam dans le monde.
Tout à fait.
Raconte-moi un peu ce voyage. Comment vous avez fait
Alors, au départ, effectivement, on avait deux choix possibles. Ou partir avec une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages, d'accord ? Ou alors partir un petit peu à l'aventure, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on organisait le voyage de A à Z en s'organisant en amont, puisqu'il fallait réserver les hôtels, savoir vraiment le parcours qu'on allait effectuer pour justement optimiser notre temps et ne rien rater. Voilà, c'est ça, c'était notre objectif, de pouvoir être, comment dire ça, très bien organisé pour en voir le plus possible. Puisque, encore une fois, je le répète, c'est le voyage d'une vie pour nous. Et donc, on a pris l'option de le deuxième choix.
Peut-être pas, hein. Peut-être tu as encore la possibilité
de faire le grand pèlerinage. Tout à fait, c'est l'objectif, j'allais en parler un petit peu vers la fin, mais c'est l'objectif qu'on a tous les trois. Effectivement, la consécration, ce serait ça. Après, on peut parler aussi du financier, parce que ce n'est pas donné, il faut le savoir. En toute transparence, la Umrah coûte en moyenne entre, j'allais dire, 1200 et 2000 euros.
Oui, mais alors là, tu parles de voyage compris,
tout compris.
Hébergement.
Oui, en général, si vous partez avec une agence, donc effectivement, il y a l'hébergement qui est compris, il y a la nourriture et tout le reste.
Donc c'est des packages.
C'est ça, exactement, c'est des packages. On est à peu près dans ces eaux-là, entre 1500 ou 1200 euros et 2000 euros. Si on parle du grand,
alors là, ça doit être...
Alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça augmente en plus chaque année, malheureusement, mais on n'est pas loin des 9 à 10 000 euros.
Oui.
Donc voilà, ça reste un coût. Très peu de personnes peuvent se le payer, clairement. Donc, c'est aussi une réflexion à avoir et il faut vraiment s'organiser pour pouvoir le faire, pour avoir les moyens de le faire.
Oui, quand tu parles de voyage d'une vie, effectivement, on comprend mieux.
Exactement, oui, tout à fait. À l'époque, il faut le savoir qu'à l'époque de nos parents, alors je vais dire une vingtaine d'années, peut-être dans les années 2000, on était à 4-5 000 euros. Donc, vous avez vu, ça a doublé en presque 15 ans, quoi. Donc c'est assez délicat par rapport à ça. Et donc on a pris, nous, la deuxième option, c'est-à-dire de partir, de s'organiser dès le départ et de pouvoir être libre, j'allais dire, aussi, puisqu'en général, quand on part avec une agence, on est un petit peu dépendant du groupe.
Oui, il ne faut pas être trop encadré.
C'est ça. Nous, on a vraiment voulu faire les choses à notre manière et ça s'est très bien passé, on ne le regrette pas du tout. Et tout ce qu'on avait envisagé de faire et préparé, on a pu le faire en temps et en heure. Comme il le fallait, c'est très éprouvant, mine de rien, puisqu'il faisait déjà très chaud.
Dis-nous un petit peu à quel moment vous avez fait ça.
C'est-à-dire ?
À quel moment de l'année ?
On est parti au mois de février. Et donc, là-bas, il faisait très très chaud. C'était quand même supportable, mais il fallait quand même...
Parce que là, vous êtes, on n'est pas sur le plateau, hein, c'est pas comme à Riyad, où
cette période
de l'année, il ne fait pas encore très chaud.
Exactement.
Il peut même faire froid.
Ouais, c'est ça. Non, là, effectivement, il faisait assez chaud. Après, on n'est pas beaucoup vêtu, donc ça permet aussi, justement, de supporter cette chaleur-là.
Ça, c'est important. Tu vas nous donner des détails sur le
vêtement. Oui, avec plaisir.
Il y a un vêtement de pèlerin.
Exactement. Il y a ce qu'on appelle la rida. Donc effectivement, c'est une espèce des espèces de toges, on va dire, blanches, que vous voyez, qu'on voit souvent à la télévision, qu'on portait. Donc vous avez le haut et le bas, qui sont tenus par, en général, une ceinture. Voilà, on n'avait vraiment que ce vêtement-là.
Et alors ça, tout le monde est tenu de porter ce vêtement.
Exactement,
pour participer,
tout à fait.
Mais c'est le même vêtement pour les hommes et pour les femmes ou...
C'est pas tout à fait le même. Ouais. C'est pas tout à fait le même. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce que portent les femmes, pour être honnête. C'est aussi très léger au niveau des tenues, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Donc adapté au climat et à la foule.
Exactement,
c'est ça. Mais alors, ça, ce vêtement, vous les pèlerins l'achètent ou
oui,
ça
oui,
leur,
oui.
Ça leur sert de souvenir après.
Exactement, on le garde. Alors moi, par exemple, pour mon cas personnel, c'est ma maman qui était en Algérie peu de temps avant que je parte là-bas, qui me l'a ramené de là-bas. Qui me l'a acheté en Algérie. Et donc, elle me l'avait ramené en France.
On peut l'acheter avant de partir
oui,
dans ça, un
ça,
pays.
Oui, ça se trouve, absolument partout. Ça se trouve partout. Vous pouvez même aller à Bordeaux.
C'est pas obligatoire de l'acheter sur place.
Pas du tout. Vous pouvez le faire aussi sur place, évidemment.
On peut le trouver, oui.
Mais vous pouvez le faire aussi bien en amont. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que soit vous faites le choix d'arriver directement à la Mecque. Là, à ce moment-là, il faut que vous portiez la tenue directement dans l'avion. Parce que vous devez être en état de sacralisation.
Ah oui, donc ça impose qu'on l'achète avant de partir.
Exactement. Sauf que nous, on avait pris le choix d'aller d'abord à Médine. Donc là, on n'était pas encore en période de sacralisation. Donc on est arrivé dans une tenue, j'allais dire, classique. C'est vraiment arrivé à peu près à 80 km de la Mecque qu'on se met en état de sacralisation, qu'on doit porter la tenue. Et là, à ce moment-là, on peut faire nos rites correctement.
Donc là, vous ne pouvez pas arriver à la Mecque en civil.
Non. Si vous voulez faire votre petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, c'est la même chose. Vous devez être dans cette tenue-là et être en état de sacralisation avec des invocations à dire très précises pour justement rentrer dans le pèlerinage.
D'accord. Alors, vous arrivez où? Vous arrivez directement à Médine ou
On est passé par Djeddah.
Oui.
On est arrivé à Djeddah.
Oui.
Et ensuite, de Djeddah, on a pris le taxi pour arriver à Médine.
Directement Paris-Djeddah
Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. On a fait Bordeaux-Paris, Paris-Djeddah, et ensuite Djeddah-Médine, et après Médine-Mecca.
D'accord.
Ouais, c'est comme ça, ça a été notre parcours.
Djeddah-Médine, vous pouvez le faire en voiture
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Toutes les villes peuvent être faites en voiture sans aucun problème. Si je devais, comme ça, donner un ou deux ou trois choses qui nous ont le plus marqué.
S'il y a des choses, il y a des choses moi, que je voudrais savoir, moi. Et impression, votre impression de Médine, ça ressemble à quoi, Médine? On parle beaucoup de la Mecque, mais on parle presque jamais de Médine.
Et pourtant, alors, avant d'y aller, si vous voulez, on lisait beaucoup de témoignages. Pas mal de personnes nous disaient qu'ils se sentaient plus apaisés à Médine qu'à la Mecque. Donc moi, j'avais du mal à comprendre, parce qu'effectivement, souvent, on parle de la Mecque, il y a la Kaaba qui est là-bas. Mmh. Et effectivement, nous, on l'a ressenti aussi. On a l'impression qu'on est dans un état second, j'allais dire.
C'est une ville qui est restée plus petite, quand même, aussi, Médine.
Je ne sais pas. En termes de superficie... Alors déjà, je crois qu'elle est aussi peuplée que la Mecque.
Ah bon?
Ouais, je pense. Oui, vraiment. Nous, on a été marqués parce qu'il y avait autant de monde à Médine qu'à la Mecque.
Ah oui.
C'était impressionnant.
Ah oui.
Dans toutes les mosquées, c'était à chaque fois rempli, vraiment. Donc il faudrait regarder. Hein, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que la ville est aussi peuplée qu'à la Mecque.
Oui, je regarderai ça. Oui.
Et effectivement, on avait l'impression d'avoir un sentiment un petit peu d'apaisement total. C'est très compliqué à expliquer, faut vraiment le vivre.
Est-ce que ça vient du fait qu'il y a moins de pèlerins?
Non, justement.
Les gens qui font le Hajj sont absolument tenus d'aller à Médine?
Oui, parce qu'effectivement, il y a la mosquée du prophète déjà qui est là-bas.
Oui.
Donc c'est des endroits incontournables, clairement. Je ne connais personne qui a été en Arabie Saoudite et qui a été qu'à la Mecque pour ensuite revenir en Europe.
D'accord.
Non, effectivement, on est obligé de passer par Médine. Mais non, c'est même pas une question de nombre, parce que je vous dis, il y avait autant de monde à Médine qu'à la Mecque. Mais on avait vraiment ce sentiment où il y avait de la tranquillité, de l'apaisement. On était serein, encore plus qu'à la Mecque, vraiment.
Donc, Médine.
Oui.
Vous avez fait ce que vous deviez faire à Médine.
Exactement.
Et vous êtes parti à la Mecque.
C'est ça. Et ensuite, on a fait nos rites à la Mecque. Les rites principaux, ils sont assez simples à connaître et à comprendre. Vous avez effectivement 7 tours.
Oui, il faut rappeler les principaux, puisque voilà.
C'est très court.
Oui.
Il faut faire les 7 tours autour de la maison sacrée.
Comme je le disais,
avec des invocations à dire à voix haute ou à voix basse, peu importe, en fonction des endroits où vous êtes. Et ensuite, vous avez deux monts. Donc c'est le mont Safa et le mont Marwa. C'est deux montagnes, on va dire. Qu'on doit en fait parcourir. Alors c'est des lignes droites.
Qui sont distantes de...
Ah, je ne sais pas de combien de mètres.
De la Kaaba.
Non, c'est juste à côté.
C'est à côté.
C'est vraiment à côté. Une fois que vous avez fait vos 7 tours, vous faites vos dernières prières, et là tout de suite vous pouvez justement entamer ce petit parcours-là.
entre le mont Safa et le mont Marwa. Je ne sais pas exactement combien il y a de distance entre les deux monts. C'est pas énorme. C'est pas, j'aurais dit 800 mètres, mais sans certitude.
Tout ça, y compris la source Zemzem, tout ça, c'est dans un mouchoir.
Exactement. Hein. Tout ça, c'est dans un mouchoir de poche.
Alors, il faudrait peut-être rappeler pour les auditeurs que la Kaaba, c'est une construction un petit peu mystérieuse, hein, qui abriterait, enfin, qui était même probablement pré-islamique.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Et qui porte dans un de ses coins, incrustée, une pierre noire qui aurait été donnée à Adam et Ève par l'ange Gabriel. Exactement. Et donc qui est particulièrement vénérée. Et donc l'idéal pour les pèlerins qui font la circulation, c'est d'arriver à toucher moins le mur de cet édifice qui est entièrement recouvert d'un voile.
Exactement.
Et brodé, magnifique, qui est renouvelé périodiquement.
Exactement. Alors justement, c'est peut-être le petit bémol que je trouverais, c'est que... Alors, ce n'est pas une obligation, justement, de toucher cette pierre noire. Ça, il faut le savoir. Et je trouve qu'il y a parfois des abus, parce qu'il y a énormément de monde, et il y a parfois des gens qui ne respectent pas spécialement les règles, il y a des bousculades qui peuvent arriver pour essayer de la toucher. Nous, pour le coup, on aurait pu, hein, mais non, on ne l'a pas touchée. Ce n'est pas une obligation. On préfère rester, j'allais dire, au niveau des limites, en fait, hein. Puisqu'encore une fois, il peut y avoir des dégâts, en fait, étant donné le nombre qu'il y a. S'il y a un manque de respect à ce niveau-là, ça peut être très dangereux, notamment pour les personnes âgées ou pour les enfants, puisqu'il y en avait pas mal. Et effectivement, c'est ce qui me gênait un petit peu quand je voyais qu'il y avait un petit peu des échauffourées. Ça gâche un petit peu la chose.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce que tu évoques, là, ce que tu décris, a été décrit déjà par des voyageurs arabes,
oui, tout à fait.
Comme Ibn Jubayr ou bien Ibn Battuta.
Ouais,
ce sont des gens qui ont vécu au 12e siècle, qui était un Andalou, le deuxième qui était un Marocain qui a vécu au 14e siècle et qui ont beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen et bien au-delà,
oui.
Et qui ont décrit leur passage à la Mecque.
Oui.
Alors, il y avait effectivement les gens qui commettent des déprédations en s'accrochant aux voiles,
oui.
Et puis les bousculades qui entraînent des victimes qui sont piétinées, etc., parce que tout le monde veut toucher la Kaaba.
C'est tout à fait ça. Et ce qui est marrant avec justement ces auteurs-là, c'est qu'on retrouve exactement la même chose plusieurs siècles après.
Ouais.
Ça n'a pas changé. Et même s'il y a des rappels très réguliers par les grands savants, j'allais dire, ça n'empêche que malheureusement, voilà, il y a des personnes qui sont assez irrespectueuses des règles, et notamment voilà, des règles de bienséance, des règles de politesse, ce genre de choses.
Des comportements, c'est ça qui sont un peu déviants. Ils sont inévitables.
Exactement. Alors, donc c'est ce qui gâche un petit peu le charme de tout le reste.
Les deux voyageurs en question là, se plaignent beaucoup aussi du comportement de certaines communautés.
Alors, oui, exactement.
Il y a des gens qui sont plus respectueux que d'autres.
C'est tout à fait ça. Et moi, je vais être honnête avec vous. La communauté qui m'a le plus impressionné dans le bon sens du terme, c'est les Asiatiques, en fait. Ouais. Alors, peu importe le pays, hein, je n'ai pas spécialement discuté avec ces communautés-là pour savoir si elles sont japonaises ou thaïlandaises ou autres.
On va rappeler pour les auditeurs que quand même, il y a presque 60% des musulmans qui vivent dans des pays asiatiques.
Exactement.
Et que l'Indonésie,
notamment
par exemple,
l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde.
C'est presque 220 millions d'habitants.
C'est ça, tout à fait.
Et le plus grand pays musulman du monde.
Exactement. Et effectivement, eux, en termes de respect, je n'ai pas vu mieux. Donc c'est vraiment des exemples pour nous. Et on était très enchantés de les côtoyer au quotidien. C'était assez impressionnant.
Voilà. Donc, on fait le tour cette fois de
oui.
la Kaaba.
Oui.
Ensuite, on va boire à la source.
Oui, exactement. On va boire à la source. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Ouais. On fait...
Qui, elle aussi, est tout près. Hein.
C'est vraiment, je vous dis, tout se tient dans un mouchoir de poche. C'est pour ça que je vous dis que ça peut se faire en 3 heures.
Ouais.
Parce que tout est à proximité. Et donc, on boit l'eau de Zemzem, hein, ce qu'on appelle l'eau de Zemzem. Et ensuite, effectivement, on fait les petits allers-retours que nous devons faire entre le mont Safa et le mont Marwa. Et pour l'expliquer un petit peu l'histoire de ces allers-retours, c'est en fait à l'époque de notre prophète Ibrahim, donc Abraham. Sa femme, en fait, était... Hajar était dans le désert et elle avait des difficultés à trouver de l'eau, justement. Donc, elle a dû faire énormément de marches pour arriver à trouver ça. Et elle avait en plus son fils avec elle, qui était encore pas un nouveau-né, mais c'était quand même un bébé. Et donc, voilà, par un miracle, effectivement, il y a des jets d'eau qui ont jailli du sol. Et c'est pour ça qu'on reproduit un petit peu le parcours qu'elle a fait pour pouvoir arriver à trouver de l'eau. Et en gros, c'est parce que la symbolique, c'est le fait qu'elle avait tellement confiance en son créateur, oui, que justement, ce miracle a pu... Exactement. Et nous, pour lui rendre hommage, entre guillemets, on fait le même parcours. D'accord. Voilà.
Et
voilà
d'où ça vient. Et alors, la lapidation?
Oui, alors nous, on n'a pas à le faire.
Ah, vous n'avez pas
pour
le faire.
Petit pèlerinage. Exactement. Ça, c'est la petite différence
là,
avec le grand.
C'est un peu plus loin, là.
Là, c'est un peu plus loin, ouais. Effectivement. Là, vous devez prendre un transport pour pouvoir y accéder. Ouais. C'est la ville s'appelle Mouzdalifa, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est pas loin de Mina, qui est une ville importante.
C'est aussi une étape de la...
Exactement. Et ça, effectivement, c'est les grands pèlerins qui le font. Nous, on n'a pas à le faire. On ne l'a pas fait, par exemple... Pour nous.
Oui, il y a une nuit à passer sur place.
Exactement, ouais, c'est ça. Il y a une nuit à passer. Ceux qui sont assez faibles physiquement, après cette nuit-là, peuvent justement repartir. Oui. Et il y en a d'autres qui peuvent prolonger un petit peu leur séjour, en y rester 2-3 jours. Voilà, ça tout dépend de l'état physique de la personne.
Très bien. Alors, la lapidation, si vous voulez rappeler aux auditeurs ce que c'est.
Lapidation, alors c'est des stèles qu'on lapide avec des petits cailloux, j'allais dire, un petit peu plus gros qu'un pois chiche, hein, que la taille d'un pois chiche. Oui. Et en fait, on lapide un petit peu le diable, hein. C'est comme ça que ça, oui. C'est comme ça que ça s'appelle.
Le stèle personnifie le,
ouais,
personnifie
c'est ça, le exactement, qui personnifie le diable. Et donc, il y a un certain nombre de fois où on doit le faire. Alors, c'est pareil, j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 7 fois.
Je crois que ça arrive à 70. Il me semble.
Je crois que ça a été, il me semble que c'est. Vous avez peut-être raison. Je ne sais plus le total.
Les auteurs expliquent, c'est en particulier Ibn Battuta, je crois, qui explique, oui, vraiment en détail.
Oui.
C'est 7 fois. Combien de pierres on doit jeter?
Exactement.
Chaque fois.
Je crois que c'est 3 fois 7, c'est 21 fois le premier jour, et ensuite c'est prolongé pendant 3 jours. Donc effectivement, on peut peut-être arriver à ce nombre-là.
Mais alors, ces rituels, là, les gens vraiment les accomplissent.
Ah, complètement. Oui.
Vraiment sans.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ils sont. Je vous dis, c'est quelque chose qui est important. Ils sont habités, hein, limite, pour pouvoir faire ça. On les sent très concentrés et on a l'impression que c'est une. Je vous dis, une consécration de tout ce qu'on a vécu, en fait. C'est très impressionnant. Et on a l'impression vraiment d'avoir atteint un objectif précis, voilà, en ayant effectué tous ces rites, et
alors,
notamment celui-là.
Bon, moi, je vous pose la question quand même avant d'oublier, parce qu'elle me paraît importante. Mm-hmm. Pendant que vous étiez là-bas avec vos amis,
ouais,
est-ce que vous avez vraiment ressenti vous avez vraiment eu la sensation d'appartenir à la Houma, à la communauté musulmane?
C'est exactement ça. C'est aussi pour ça que nos émotions se décuplent. On avait cette impression-là. On n'est pas des personnes très sensibles au départ. Pourtant, là-bas, je vous dis...
Vous voulez dire, même si vous n'êtes pas profondément religieux...
Non, je ne parle pas de religion. Oui. Je parle de sensibilité.
Oui, sensibilité.
C'est-à-dire qu'on va pas être ému en regardant une photographie, par exemple. Voilà. Oui. Certains le sont. Nous, ce n'est pas spécialement notre cas. Et pourtant, là-bas... Parfois, on avait des larmes qui coulaient sans s'en rendre compte, on ne savait pas d'où ça venait. Ah ouais. Parce que, comme vous dites, on avait l'impression d'appartenir à une sorte
d'émotion sacrée.
Oui, c'est ça, tout à fait. À une seule et même communauté. Et on ne peut pas se sentir seul, en fait, parce que tout le monde suit la même direction. C'est collectif, c'est collégial, on est solidaire, on sait que chacun vit des épreuves.
Oui, et partage les mêmes croyances.
C'est ça.
Mais alors, c'est bruyant?
C'est bruyant.
Bruyant, oui.
Assez.
Oui, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit?
Assez, mais on l'oublie assez vite.
Oui.
On l'oublie assez vite parce que je vous dis, on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on a l'impression d'être un petit peu dans une bulle.
Parce que quand on voit les photos, on a vraiment l'impression d'un grouillement, d'une foule,
oui,
d'une densité extraordinaire.
C'est un grouillement, mais je vous dis, c'est pas quelque chose qui nous a perturbés. Voilà, oui. C'est ça que j'allais dire. Parce que je vous dis, on est tellement concentré dans notre bulle qu'on en oublie un petit peu parfois, ouais, le bruit, effectivement, les mouvements. Voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Et, c'est assez particulier, c'est compliqué de le décrire. Puisque c'est des sentiments qui sont inexplicables et qu'on n'a jamais vécu ailleurs. Mmh. Ça, c'est clair, on est unanime à le dire.
Vous n'avez jamais eu cette impression?
Non, jamais. Et il y a une impression aussi qui est folle, c'est qu'à partir du moment où vous partez, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Comme si c'était addictif, presque.
Ah oui.
Alors, je vous assure, c'est impressionnant. À partir du moment où on a été limite dans l'avion, la chose qu'on avait en tête, et tous les trois, c'était pareil, hein, c'était de se dire, j'ai vite envie d'y retourner pour le revivre, en fait.
Oui,
Donc c'est une sensation très particulière.
Alors maintenant, on va passer à des détails beaucoup plus concrets et beaucoup moins spirituels, autant au sens de l'esprit. La vie à la Mecque, comment ça se passe ? Je veux dire, parce que tout doit être organisé autour de cette fonction de pèlerinage de la ville. Alors, j'ai lu quelque part qu'il y avait des hébergements, il y avait presque, ils étaient en train d'augmenter le nombre des hébergements. Oui. Il y a presque 2 millions d'hébergements disponibles maintenant.
Ah, c'est vrai ? Ah, c'est possible. Je n'avais pas eu cette information.
Ils ont augmenté. Enfin, il y avait, ces dernières années, il y avait 1,5 million à peu près, et ça a été augmenté dans des proportions phénoménales.
Oui, je suis même pas étonné.
Alors, les gens habitent où ? Parce que les moyens des pèlerins ne sont pas les mêmes. Suivant les pèlerins, il y a des gens qui ont les moyens d'être hébergé dans le luxe et d'autres...
Exactement. Eh bien, alors, ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les tarifs et pour toutes les bourses. Donc, effectivement, vous avez juste à savoir le budget que vous voulez y mettre. Je vous dis, certains qui ont les moyens, et tant mieux pour eux, ils prennent des hôtels, je vous dis, à 50 mètres de la maison sacrée.
Ouais.
Nous, on était un petit peu plus éloignés. Mais parce alors, qu'effectivement,
obligatoirement, beaucoup plus cher.
C'est ça. C'est toujours pareil. Mais c'est un peu comme partout. Hein. Dans tous les lieux touristiques, vous avez différents prix et tout dépend de ce que vous voulez, vous.
Ouais.
Nous, on partait du principe que ce n'était pas une nécessité d'être à côté, surtout qu'on est assez jeune. On est en bonne santé, assez sportif dans l'ensemble. Pourquoi dépenser autant d'argent pour... Et en plus, j'ai l'impression qu'on vit moins bien les choses. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est de... alors, peut-être pas vivre à l'époque de notre prophète, mais quand même s'y rapprocher, c'est-à-dire être dans la simplicité totale.
Ouais, pour être le plus dans la simplicité. Par le vêtement, là.
Entre autres, mais pas que, même au niveau de l'hébergement. Il n'y a pas trop d'intérêt d'être dans une chambre, dans une suite, où vous avez des lits extra larges. Ouais. Enfin voilà, je dis des bêtises, mais avec des très bonnes conditions. Il n'y a pas spécialement d'intérêt. On avait l'impression qu'on vivait moins bien la chose. Donc on s'est dit, on part sur des choses très simples. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'était pas à plaindre non plus, mais c'était assez éloigné, on avait de la marche à faire. C'était pas des 5 étoiles, il n'y avait pas de piscine, ni quoi que ce soit. C'était très, très basique, très simple. Et on a beaucoup plus apprécié, je pense, le voyage en faisant ça.
Oui. Alors, il y a des restaurants,
il y a absolument tout. Oui,
toutes ces personnes.
Il y a absolument tout.
Et
tout,
là
tout.
Aussi, toute la gamme, toutes les possibilités.
Quoi. Exactement. Oui. Tout est possible au niveau restauration, hébergement, vous en avez pour... ouais. Vraiment, c'est impressionnant et ils sont très, très bien organisés. Ça, il faut le dire aussi, parce qu'accueillir autant de personnes, c'est comme si vous organisez une Coupe du Monde de football tous les ans.
Oui.
C'est quasi impossible à faire. Les gens se disent, mais c'est pas possible. Et en fait, je conseille d'ailleurs aux auditeurs, s'ils ont la plateforme sur Prime Video, il y a un reportage qui est très intéressant. Je crois que ça s'appelle Un jour au Haram. Donc Haram, ça veut dire sacré, c'est-à-dire un jour là-bas, à la Mecque. Et en fait, on suit l'organisation de ceux qui sont responsables de la Mecque du matin jusqu'au soir. Comment ils sont organisés pour justement accueillir tout le monde au niveau de la distribution de l'eau, tout ce genre de choses. Et là, vous comprenez qu'effectivement, tout est réglé c'est comme une horloge suisse. C'est impressionnant.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là aussi, si je me reviens à Im Jubeir et Batuta, et qui insistent beaucoup dans leur description de la Mecque et du pèlerinage sur le fait qu'il y a une profusion de choses qui sont apportées à la Mecque. Et qui, alors lui, eux, tous les deux, ils trouvent que tout est délicieux.
Oui, les fruits, c'est formidable, exactement. Ils ont l'impression que le goût n'est pas le même qu'ailleurs.
Exactement. Ouais, mais on a l'impression que tout est fourni en abondance.
Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, un des deux auteurs, je ne sais plus lequel, dit qu'effectivement, il considère ça comme miraculeux presque.
Oui, le goût de la viande en particulier.
C'est ça, tout à fait. Pareil, le goût des dattes, des fruits, enfin, tout ce genre de choses. Oui, on a l'impression que c'est meilleur qu'ailleurs. Alors, c'est très particulier, mais effectivement, moi, je peux témoigner, c'est un peu le cas.
Et alors, d'autres aspects qui sont peut-être moins positifs, est-ce qu'il y a de l'insécurité ? Est-ce qu'il y a du vol ? Est-ce qu'il y a...
Pas du tout.
Parce que là, il y a des auteurs qui disent quand même, il faut faire attention à sa bourse.
Hein. Alors, moi, j'ai pas spécialement. Alors, nous, on n'a pas eu ce cas de figure. On a juste eu une chose qui nous a. Mais c'est un peu notre faute. On avait mis nos claquettes, en fait, à un endroit qu'il fallait pas. Si vous faites ça, vous ne les retrouvez pas. Ça, c'est clair. Parce qu'encore une fois, oui, ils sont tellement bien organisés.
Il faut les déposer en entrant dans la...
Vous avez des lieux, en fait, où vous devez déposer, sauf que je ne sais plus pour quelle raison. On n'avait pas pu y accéder, il y avait trop de monde. Donc, on avait essayé de les poser à côté d'un pilier. On se disait, bon, ça gêne personne, ça devrait le faire. Et effectivement, non. Ils sont tellement respectueux des règles qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est enlevé.
Ah oui, alors,
on n'a jamais pu les retrouver.
C'est la police interne.
Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas la police, mais on va dire que c'est effectivement ceux qui sont un petit peu dans ce côté-là, niveau sécurité. C'est ça. Mais par contre, je n'ai pas vu d'acte de délinquance, je n'ai pas vu de vol. Personne ne s'est plaint. Alors, ça peut peut-être arriver, encore une fois. Il ne faut pas non plus trop être dans l'utopie non plus.
Je crois que c'est quand même c'est très, plutôt rare. Très surveillé. C'est plutôt très rare. Parce que je lisais, je ne sais plus où, qu'il y avait autour de la grande mosquée, il y a 1500 caméras de surveillance.
Mais c'est ce que je vous dis. Mais dans le reportage, ils en parlent. Ah oui. Ils nous invitent justement dans une salle, la salle où justement il y a toutes les caméras. Et je vous dis, c'est tellement bien organisé qu'ils peuvent.
Vous avez pu visiter ça
Non, on n'a pas pu. Non, je vous parle du reportage que j'ai vu à la télévision.
Tout
à fait. Ils invitent le téléspectateur à regarder ça. Et c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit. Tout de suite, la personne serait retrouvée très facilement.
Et alors, est-ce que dans une ville comme La Mecque ou à Médine, est-ce qu'il y a tout ce qui accompagne les pèlerinages, dans les villes de pèlerinage je sais que pour la religion chrétienne, c'est comme ça. C'est-à-dire toute l'industrie du souvenir, des choses qu'on achète, que les pèlerins achètent pour se rappeler du...
Non, pas vraiment.
Non, vous n'êtes...
Non, pas spécialement. Non, il n'y a pas... Alors, vous pouvez en trouver, vous pouvez trouver des porte-clés, des choses comme pour les souvenirs, mais c'est pas quelque chose qui est très courant. Il y a des petites boutiques, effectivement, où vous pouvez, mais on sent que c'est pas quelque chose qui est vraiment voulu par les pèlerins. C'est pas ce qui ressort souvent, c'est on va dire c'est les photos en général, c'est ce qui reste, quoi, les photos et les vidéos. Oui. Alors ils essayent pareil de respecter un petit peu parce que ça peut toujours gêner la concentration de certaines personnes, etc. Donc c'est quand même assez limité, mais voilà, c'est plus ça qui est désiré, pas spécialement des objets comme ça,
des photos, même dans la circum.
Oui, lorsqu'on fait des tours.
Circulation, là, ça doit y aller, les photos.
Oui, oui, ça y va, ça y va. Moi, j'ai essayé quand même de limiter ça. Je l'ai fait très peu. Alors, c'était volontaire, parce que je pars du principe que c'est bien de vivre le moment quand même et de profiter, parce que ça passe tellement vite. Je me dis, j'avais l'impression de rater quelque chose si jamais j'étais trop sur mon téléphone. Ouais. Voilà, c'était un peu ça, le sentiment que j'avais.
Et l'impression que vous avez fait, alors, la nouvelle Mecque. C'est-à-dire maintenant à toutes ces constructions gigantesques qui entourent la mosquée avec cette énorme horloge là.
Oui, c'est exceptionnel, c'est ça aussi. Quand vous entendez l'appel à la prière et que vous voyez effectivement cette énorme horloge, en fait, nous, notre hôtel, je vous dis, était à 5-6 minutes de marche. Ouais. Lorsqu'on arrivait, on voyait le panorama. Donc la Kaaba, on ne la voyait pas parce qu'effectivement, elle était cachée par des murs, entre guillemets.
Oui, les murs tout autour
c'est ça. Et on voyait effectivement cette énorme horloge. Et c'est pareil, c'est un panorama exceptionnel.
Un cadran qui est de
c'est ça, qui est lumineux.
De Big Ben.
De couleur verte. Oui, c'est exactement ça, de couleur verte. Et je vous dis, avec l'appel à la prière, ça, c'est pareil, c'est une image qui va nous rester à vie, je pense. Effectivement, c'est assez impressionnant. Voilà. Je ne sais plus quelle était votre question.
Oh ben non, c'était une question matérielle sur l'aspect de La Mecque comme ville moderne.
Oui, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, moi, c'est compliqué de comparer puisque c'est la première fois que j'y allais. Donc
comment on se déplace dans La Mecque si on n'est pas à pied?
Ah, vous pouvez pas.
Non, c'est pas possible.
Non. Vous faites tout à pied. Oui. Vous faites tout à pied, ouais.
Même les gens très âgés, invalides, alors, il y a des moyens de se faire amener jusqu'à la mosquée.
Exactement, oui, tout à fait. Il y a un service qui est proposé. Des personnes, effectivement, se rendent disponibles pour pousser des fauteuils roulants, ce genre de choses. Il y en a très, très souvent. J'en ai vu beaucoup. Et donc, beaucoup de personnes âgées en ont profité.
Et donc, ça, c'est des organismes comme le Croissant Rouge ou c'est des...
Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu ce même système, vous avez raison. C'est exactement ça. Donc, c'est sous volontariat, hein. C'est bénévole, ils ne gagnent rien à le faire. C'est vraiment pour le bien des pèlerins, quoi. Oui, c'est organisé comme ça.
Peut-être une dernière question.
Avec plaisir.
Ou une avant-dernière. Je crois qu'on l'a un petit peu évoqué à propos des écrits anciens, mais vous avez noté des comportements différents. Est-ce que vous avez eu vraiment dans la diversité des populations qui participaient à ce pèlerinage vous avez décelé des différences de comportement
Alors, moi, je vous dis, ce qui m'a marqué vraiment, c'est
vous parliez de la discipline des
oui,
des Asiatiques.
Exactement. Mais... J'allais en venir parce que je vous dis, c'est impressionnant la différence qu'il y a entre eux et nous. Je me considère même, complètement différent d'eux à ce niveau-là. Ils sont en groupe. Très souvent, oui. Ils sont en groupe. Et leur groupe est toujours très, très bien aligné, comme une espèce de file indienne. Où chacun se touche l'épaule, on va dire, pour pouvoir se suivre et pour ne pas se perdre. Oui, ça, c'est des choses bêtes, mais les autres communautés ne le font pas. On est souvent un petit peu éparpillés, à droite, à gauche, on essaie de regarder, mais eux, voilà, rien que ça, ça montre qu'il y a une discipline, c'est respecté, c'est réglé, et il ne peut pas y avoir de difficultés dans ce qu'ils font, en fait, parce que tout est organisé en amont.
Ça rappelle un peu les touristes japonais avec le.
C'est exactement ça, c'est pas un cliché, vraiment.
Le chef de groupe avec son petit drapeau.
C'est ça, exactement. C'était impressionnant. Après, le reste, non, j'ai pas spécialement vu de différence, parce qu'on fait tous la même chose. On dit tous la même chose. J'avais l'impression que... il n'y avait pas spécialement de différence entre les communautés, pour le coup.
Est-ce qu'il y a dans le déroulement du pèlerinage des occasions de prières en commun ou de...
Oui, énormément. Oui, oui. Et tout à fait.
Des prêches
Exactement. Ouais. Oui, il y a des prêches. Exactement. Il y a des prières en commun, bien sûr. Mais les 5 prières que nous faisons par jour...
Oui, elles peuvent se faire...
Elles sont toutes en commun. Là-bas, justement, c'est aussi le but, ouais. Parce que vous avez des récompenses supplémentaires quand vous faites une prière, ce qu'on appelle les prières de groupe. Donc effectivement, l'objectif, c'est à chaque fois de faire une prière de groupe à la mosquée, groupe, du matin jusqu'au soir. Et pareil, on a l'impression d'être une seule et même personne, oui, donc c'est vachement impressionnant. C'est très impressionnant, ouais. Oui, mais complètement.
Toufik, on pourrait continuer pendant des
oui,
heures.
Oui, c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter lorsqu'on parle de ce genre de sujet.
Déjà, on a appris beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup de...
Avec plaisir, merci à vous.
Ce témoignage tout à fait vivant. Et puis, on a sans doute oublié. Donc, on vous donne rendez-vous, votre retour du Hajj.
J'espère.
Dans quelques années.
Avec plaisir. En espérant que mes amis pourront être cette fois présents avec moi. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ça aurait été aussi intéressant qu'on ait leur vision des choses.
Alors, vous êtes coupé les cheveux, parce qu'il faut se couper les
oui,
cheveux.
Oui, tout à fait. Exactement. Ouais, on l'a tous fait.
Ça va, ça repousse.
Ça repousse. Je ne les ai pas beaucoup coupés, je vous avoue. Ouais. Certains font crâne rasé. Moi, ce n'était pas spécialement mon cas.
Et les dames sont astreintes à ce.
Oui, exactement. Oui, je crois bien. Je crois que c'est que pour les hommes, ouais. Donc, oui, effectivement, on les a coupés un petit peu.
Je ne sais pas si vous avez vu, là, dans les... Dans Im Jubayr, le pèlerinage féminin.
Oui.
Qui est très vivante aussi. Puisque
oui, tout à fait, il en parle, c'est vrai.
Les femmes font bande à part.
Exactement. Oui, effectivement. Oui, il y a certaines choses où elles sont à part, et il y en a d'autres où... Ben, par exemple, pour les tours que nous faisons, oui. On est tous ensemble, oui. Y compris avec les femmes. Pour Safa et Marwa, entre les deux monts, idem. Quasiment tous les rites sont en commun, pour le coup. Mais oui, effectivement, je ne suis pas... je ne pourrais pas vous donner autant de détails sur ce que les femmes font. Là, j'avoue, je ne suis pas un grand spécialiste là-dessus. Faudrait peut-être à l'occasion inviter une femme à en parler.
Ça
pourrait être intéressant, effectivement,
de
voir
certainement,
la...
Certainement.
Tout à fait. Ouais, ça pourrait être intéressant. Complètement.
Merci encore.
Merci à vous.
Et puis,
très gentil.
Bravo. Bah, il faut écrire tout ça, là.
Avec plaisir, pourquoi
faire
pas.
Faire une petite relation de voyage.
Ça pourrait être intéressant.
Alors,
pourquoi
il y aura Im Jubayr, Im Batuta et Toufik.
Je ne me comparerai jamais à eux, malheureusement. Je ne serai jamais aussi doué qu'eux, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Je vous remercie pour l'invitation, encore une fois.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.